Vous êtes avec SBS French. Journal des sports de ce mardi, le Dakar endeuillé par la mort de Hubert Auriol, un ex-champion du rallye sur 2 et 4 roues, qui est décédé d'un accident cardiovasculaire. Il avait 68 ans. Son parcours avec Olivier Pron pour Radio France Internationale.
C'est sa naissance à Addis Abeba en Éthiopie en 1952 qui avait valu à Hubert Auriol son surnom. De lui, le grand public a surtout retenu des larmes. En 1987, à la veille de l'arrivée du Dakar, qu'il a déjà remporté 2 fois sur 2 roues, en 81 et 83, il est à la lutte avec Cyril Neveu pour une 3e victoire. Trop de risques pris dans un sous-bois, il se fracture les 2 chevilles entre 2 arbres, au mental, et malgré la douleur, il parvient à franchir la ligne d'arrivée en sanglots avant d'abandonner. La moto, c'est fini, place à l'auto. Hubert Auriol devient en 92, le premier pilote à remporter l'épreuve sur 2, puis 4 roues, il deviendra ensuite 5 fois champion du monde des rallyes. Le monde, il en fait même le tour, en avion à hélice à la fin des années 80, à l'assaut avec 3 partenaires du record du milliardaire Howard Hughes, qui datait de 1938, là encore, objectif atteint, l'affaire est bouclée en un peu plus de 88 heures, un temps toujours de référence. Après avoir cessé de piloter, l'Africain dirigera le Dakar pendant 9 ans, créera l'Africa Race dans les années 2000 pour revenir aux origines de la course, et deviendra animateur à la télévision, présentant la première saison de Koh-Lanta sur TF1. Avec le décès d'Hubert Auriol, le sport automobile français perd l'un de ses derniers aventuriers.
Et le Dakar, n'oubliez pas, les meilleurs moments du rallye, c'est sur la télévision SBS tous les jours à 17h30. Le Vendée Globe, Charlie Dalin est passé en tête devant Yannick Bestaven. À la 3e place se trouve Thomas Ruan. On écoute quelques réactions des skippers sur European Broadcasting Union. Isabelle Josquet qui a dû abandonner la course.
C'est pas un dimanche comme les autres à bord de MACSF. Hier, le système de blocage de maquis s'est cassé. Et depuis, ma quille pendule sous le vent. Donc il faut que je navigue le plus à plat possible avec un bateau très stable et avec le moins de roulis possible.
Salut Isabelle, j'ai appris ce matin ton abandon dans cette course et je voulais te témoigner déjà la déception que j'ai vue quand j'ai vu que tu avais abandonné sur des problèmes techniques.
J'ai passé la nuit à étanchéifier le bateau parce qu'il y a une voie d'eau. J'ai écopé, j'ai pompé. Et là, j'ai réussi à limiter l'entrée d'eau. Pour l'instant, je navigue sous trinquette seule. J'ai affalé ma grand voile. Et le bateau avance quand même à plus de 10 nœuds. C'est pas idéal pour protéger sa quille, ça. Maintenant, le plus important, ça va être de rallier un port et de mettre le bateau en sécurité et de me mettre moi en sécurité.
On passe au foot en France. Pas de match dimanche, mais Lyon a été sacré champion d'automne ou d'hiver, si vous voulez. Explication de Christophe Direnzian pour RFI.
12 saisons que l'OL n'avait pas décroché, non pas la FEF, ce statut symbolique de champion d'automne, puis hivernal cette année. Il s'en est d'ailleurs fallu de peu qu'il ne l'obtienne pas en fait, car c'était mal engagé à Rennes lors de cette 19e journée. Mené 2-0, les Lyonnais ont rattrapé le coup dans les 10 dernières minutes pour revenir à 2 partout et assurer le point qui les maintient en tête du classement. Ça n'était pas le match idéal pour démontrer la forme des Rodaniens invaincus en championnat depuis la première journée. L'OL champion d'automne pour 1 point d'avance sur le PSG, large vainqueur de Brest 3-0 au Parc des Princes pour la première de Mauricio Pochettino sur le banc à domicile. Les Bretons n'ont pourtant pas démérité, ils ont vraiment cherché à jouer, estime leur gardien Gauthier Larsonneur.
On a montré qu'on a essayé de tenir tête au PSG sans forcément rester devant notre ligne. Voilà, il y a des matchs où ça nous sourit un peu moins. Alors là, c'est comme tous les domaines, il faut qu'on continue tous de bosser parce que si on continue de bosser, on peut avoir des belles surprises et aller prendre vite nos 40 points qui nous mettraient assez rapidement à l'abri. Mais cette année, on a quand même progressé. Je pense qu'on a un peu plus de points que la saison passée à mi-saison à l'extérieur. Donc oui, je vous l'accorde aussi qu'on doit continuer de travailler pour aller prendre plus de points à l'extérieur. Mais on est quand même sur le bon chemin en étant à 26 points au bout de 19 journées. En étant le Stade Brestois, faut pas oublier d'où on vient non plus.
Gauthier Larsonneur avec Frédéric Suto, Brest 11e de cette Ligue 1 où le trio de tête s'affirme de plus en plus avec Lyon, le PSG donc, et Lille qui a réalisé une nouvelle bonne opération à Nîmes en l'emportant 1-0. Les autres résultats de cette journée entièrement disputée hier, Monaco bat Angers 3-0, Marseille se contente d'un nul 0-0 à Dijon, Montpellier a été accroché à domicile par Nantes 1-1, Bordeaux domine Lorient 2-1, 1-1 entre Metz et Nice, Strasbourg s'impose à Lorient 1-0, enfin victoire de Reims sur Saint-Étienne 3-1.
Et puis les clubs professionnels en France sont en crise et pensent baisser les salaires des joueurs. Le point avec Zofia Namazian pour RFI.
800 millions d'euros, c'est l'estimation des pertes des clubs de Ligue 1 à la fin de la saison 2020-2021. Une situation qui inquiète la DNCG, le gendarme financier du championnat de France. Faute de revenus, la plupart des clubs pourraient connaître la faillite. Alors l'instance s'attaque désormais au principal poste de dépense, le salaire des joueurs. Car la baisse de la rémunération reste l'option la plus crédible pour revenir à l'équilibre. Des salaires qui représentaient 780 millions d'euros en 2019. Le calcul est simple, baisser ses revenus pour garantir un avenir aux clubs professionnels. Et pour Jean-Marc Miqueler, le grand patron de la DNCG, une réduction de 30% de la masse salariale permettrait de retrouver l'équilibre. Ne reste plus qu'à convaincre les principaux intéressés. Est-ce que Neymar et ses 39 millions d'euros annuels accepteraient de voir ses émoluments fondre pendant plusieurs mois ? La responsabilité reviendra aux joueurs, mais pour certains dirigeants comme Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, ils seront nombreux à dire oui pour sauver des emplois. La mesure, si elle est acceptée, pourrait aussi avoir un impact sur l'attractivité de la Ligue 1. Si on offre moins aux joueurs, il ira voir ailleurs, peste l'entraîneur de Metz Frédéric Antonetti. Une délégation de présidents de clubs lancera ce mardi les premières négociations avec l'UNFP, unique syndicat des joueurs professionnels, pour sauver le football français.
En Angleterre, troisième tour de la Coupe, il y avait quelques matchs dimanche. Le carton de Tottenham contre Marine FC, 5-0. Victoire écrasante de Chelsea contre Morecambe, 4-0. Manchester City a battu Birmingham City, 3-0. Crawley, à la surprise de tous, a battu Leeds 3-0. Newport et Brighton ont fait match nul, un but partout. Hier, lundi, West Ham a battu Stockport 1-0. En Espagne, ce soir, l'Atlético de Madrid, premier au classement, jouera contre Séville, sixième au classement. En Italie, l'Inter Milan, deuxième, et l'AS Rome ont fait match nul. Dimanche, match nul, 2-2. L'AC Milan reste en tête, 3 points devant l'Inter et 6 points devant l'AS Rome. Et ce soir, la Coupe d'Italie, 8e de finale entre l'AC Milan et Torino. En Allemagne, la Coupe, deuxième tour ce soir avec le Bayer Leverkusen qui jouera contre Eintracht Francfort. On passe en Afrique, le foot, le CHAN 2020 s'ouvre le 16 janvier prochain avec le match entre le Cameroun et le Zimbabwe. En mode rugby en France, le top 14, 14e journée des matchs retour dimanche. Bordeaux-Bègles a battu Lyon 31-9, Clermont a battu Pau 42-31, Brive a battu Montpellier par un seul petit point 23-22, Toulouse a battu le Stade français 48-24. Le match entre le Racing 92 et La Rochelle a été reporté. Agnès Keleti, gymnaste hongroise, a fêté ses 100 ans samedi dernier, le 9 janvier. Olivier Pron nous raconte son parcours.
Je me sens bien. Le truc, en fait, c'est qu'il ne faut pas se regarder dans un miroir. Agnès Keleti a le visage fripé par les malheurs, les cheveux gris au carré et les yeux qui pétillent comme à ses plus belles heures. Elle est née il y a 100 ans à Budapest et c'est une miraculée. Un siècle au cours duquel, juive, elle échappe à Auschwitz, dont reviendront sa mère et sa sœur, pas son père. Agnès usurpe l'identité et change les vêtements et prend l'accent d'une jeune femme de ménage chrétienne et, ironie du sort, travaille au service d'un général nazi. La guerre fini, elle reprend sa carrière de gymnaste. Privée des Jeux de Londres en 48 pour cause de blessure, elle brille à ceux d'Helsinki en 52 et surtout à Melbourne en 56, 10 médailles en tout, dont 5 titres. Nous sommes fin 1956, les troupes soviétiques mettent sous leur coupe la Hongrie. Agnès Keleti décide de ne pas rentrer au pays. pays. Elle reste en Australie, puis file en Israël, dont elle prend la nationalité. Elle ne reviendra à Budapest qu'en 1983, puis définitivement en 2015. Ce samedi, il ne s'agit pas de célébrer l'athlète qu'elle fut, mais la femme de tête qu'elle est encore, à 100 ans, en colère contre ses médecins qui lui ont interdit de faire le grand écart qu'elle faisait encore à la perfection ces derniers mois.
Voilà pour le journal des sports de ce mardi.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.